Chronique mutante.
Un magazine queer, punk, anarchiste et féministe.
Tous les samedis de 18h à 19h sur Radio Panique 105.4.
Et bonsoir.
Vous aussi, vous aimez le tiramisu ?
Bien sûr, j'aime le tiramisu. Est-ce que c'est ton dessert préféré ?
Alors moi, pas du tout, j'avoue.
Ah bah, moi j'aime bien. Bref.
Bon, bah, on salue Strange Fruits.
On salue Strange Fruits, le jazz et le tiramisu. Vous écoutez les punks et les queers.
Sans transition.
105.4 sur Radio Panique. Et pas cette semaine sur la web radio, Radio Rageuse. Pendant ce temps-là. Sur la web radio, Radio Rageuse, les gens écoutent Chronique Mutante de l'ancien temps de la semaine dernière.
Oh là là !
C'est-à-dire qu'il y a un décalage temporel. Ça veut dire que nous sommes une semaine en avance dans le temps réel de Radio Rageuse.
Mais c'est la SF. Hein.
C'est quoi la SF ?
Science-fiction.
Ah oui, pardon ! Je croyais ASF.
Ah non, c'est un nouvel acronyme. Je sais pas.
C'est ça, nous sommes dans une situation...
Disruptive, je sais pas comment on dit.
Complètement, et avec des éditoristes complètement partagés entre écouter la web radio, écouter le direct. Enfin, ils doivent se sentir mal en fait, je pense.
Pour celles qui savent pas faire de choix, c'est vraiment pas la bonne journée, quoi.
Non, ça c'est sûr.
Je nous plains, nous les balances.
Mais alors, c'est quoi cette histoire de web radio, de radio rageuse ? Peut-être le plus simple, ça serait d'écouter un jingle, non ?
Allez.
Radio Rageuse.
La webuleuse d'émissions de radio féministe.
Mets le cap sur Mars.
Du 1er au 31 mars,
c'est Live on Mars.
Un mois de web radio féministe.
Avec des émissions,
de la musique,
des plateaux en direct
et plein d'autres choses.
7 jours sur 7,
24 heures sur 24,
tu pourras te connecter sur radiorageuse.net.
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 Pour un voyage sur la planète féministe.
Ils sont toujours aussi kitsch les jingles de Radio Rageuse, non ?
Oui, bah après, on en fait des biens aussi. Hein,
oui, oui, tout à fait. C'est le côté queer, je pense.
Oui, c'est ça.
Et donc voilà, et du coup là on n'est pas en direct. La semaine prochaine on retransmettra sur la web radio Radio Rageuse une ancienne émission à nous, celle qu'on avait fait en studio volant pour avec le Fonds de solidarité trans de Belgique. On s'est dit que ça pourrait faire un petit peu de pub tant qu'à faire de ce Fonds de solidarité auprès de des autres auditoristes francophones. Et on sera en direct le 30 mars.
Yes. Voilà. Mais là, on est en direct sur Radio Panique.
Là, on est en direct sur Radio Panique que vous écoutez donc en direct sur radiopanique.org ou 105.4. Bref, on écoute une chanson.
Et bien, qu'est-ce qu'on a au programme
Rien.
Non, quand même, j'ai envie de parler d'un livre.
Non, je plaisante, pardon.
S'il vous plaît.
Tu vas parler du livre Lumière Noire de Anne K. Jemisin ?
Non. Non, mais en fait,
j'étais
dans le métro et j'avais trois livres et je me suis dit duquel je parle.
Ah ok, t'as pris ta décision dans le métro ?
J'ai pris ma décision dans le métro. Et en fait, Lumière Noire de N.K. Jemisin, j'ai envie d'en parler le 30 parce que j'aimerais bien parler de tous les livres de N.K. Jemisin.
Waouh, ça c'est cool.
Faire vraiment tout un truc sur ça, vu que maintenant je crois que j'ai lu presque tous ses livres.
Un panorama.
Voilà.
Ok, trop bien.
Donc plutôt faire ça à la place. Non, je vais parler de Hélène Bessette, voilà, que personne ne connaît, je pense, et qui a écrit un livre qui s'appelle Ida ou le délire en 1954.
Ok.
Et voilà, elle a eu une vie très... Enfin, ça m'a intéressée, donc je me suis dit que j'avais envie d'en parler. Voilà.
Yes.
Et moi, j'ai regardé la première partie de la troisième saison de Young Royals, en mode chronique de série cheesy. Voilà.
Ok, je vais faire une petite revue de presse, un petit agenda comme d'habitude. Voilà. Et on va écouter un extrait du dernier album solo, deuxième album solo de Kim Gordon, qui est plutôt pas mal. Et la chanson s'appelle I'm a Man.
Take my hand, jump on my back, 'cause I'm the man. Pass me a black napkin, please. Dropped out of college, don't have a degree, and I can't get a date. It's not my fault. I'm not bringing home the juice. I'm not bringing home the bacon. It's good enough for Nancy. Good enough for Nancy. So what if I like the big truck? So what if I like the big truck? Giddy up, giddy up. Don't call me toxic, just 'cause I like your butt. It's not my fault I was born a man. Take my hand, jump on my back, 'cause I'm the man. I'm not ideal, I'm a person. I won the war, but lost my way. But I can buy as much as anyone. I like to shave my beard just so, manicure my nails, put on a skirt. But at the end of the day, I lost my way. Don't make me have to hide or explain what I am inside. It's good enough for Nancy. Good enough for Nancy. It's good enough for Nancy. Good enough for Nancy.
T'as fait un truc à tes cheveux ?
Non, j'écoute Chronique Mutante.
C'est l'heure de la revue de presse.
Ah non ! La revue de presse.
Queer, 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 queer.
Chronique Mutante.
un petit pincement au cœur en écoutant ces jingles, parce qu'il y a des voix qu'on n'entendra plus trop dans Chroniques Mutantes. Et, Layla a décidé de quitter l'émission et elle nous a annoncé ça cette semaine. Donc plus de chronique historique et plus la jolie voix grave de Layla. Peut-être qu'elle nous rendra visite des fois, on sait pas.
On espère.
On espère. Voilà, elle venait plus très souvent et elle a décidé d'arrêter. Et on l'embrasse bien fort.
Bisous.
Alors, on commence cette revue de presse en Ouganda où un tribunal a refusé mardi de reconnaître le groupe de défense des droits des homosexuels SMUG, Sexual Minorities Uganda, au motif qu'il visait à promouvoir des activités illégales après l'adoption l'an dernier d'une loi anti-homosexualité. L'objectif du SMUG, est de protéger les droits des minorités sexuelles, de leur fournir un abri et une sécurité en cas d'attaque, et de défendre les intérêts de la communauté. La justice russe a annoncé avoir condamné une amende de 500 euros deux jeunes femmes qui s'étaient embrassées dans un café et avaient ensuite publié une vidéo de leur baiser. Dans cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on les voit assises à une table, feignant une demande en mariage avant de s'offrir mutuellement une bague et d'échanger un baiser. Depuis 2013, une loi en Russie interdit la propagande de relations sexuelles non traditionnelles à l'adresse des mineurs. Dans la foulée d'un tour de vie général dans la société après l'assaut russe contre l'Ukraine, cette législation a été considérablement élargie fin 2022 pour interdire toute forme de propagande LGBT+ dans les médias, sur Internet, dans les livres et les films. En Grèce, les dirigeants du pays ont condamné l'agression dont ont été victimes deux jeunes femmes transgenres début mars à Thessalonique, qui a donné lieu à 21 arrestations. Les deux personnes de 21 ans ont été pourchassées par des dizaines de jeunes samedi dernier en soirée sur la place centrale Aristote de Thessalonique. La foule aurait insulté, craché et jeté des bouteilles sur ces deux personnes qui ont dû trouver refuge dans un restaurant jusqu'à l'arrivée de la police. Au total, 21 personnes ont été arrêtées, dont la moitié étaient des mineurs. Donc ce qui s'est passé là, ça s'inscrit suite au vote pour le mariage pour tous en Grèce, et je trouve que ça ressemble beaucoup au pays où il y a eu beaucoup de manifestations, de notamment de personnes croyantes, personnes traditionnelles et personnes croyantes, qui ont beaucoup manifesté contre ce mariage pour tous, et ça crée beaucoup de tensions, et c'est dans ces moments-là que ce type de situation arrive d'autant plus. Je me souviens que pendant la vague manif pour tous, manif pour tous. En France, il y avait énormément d'homosexuels ou de personnes trans qui étaient frappées dans la rue. Et on part au Burundi, où le président Évariste Ndayishimiye a réaffirmé sa volonté, déjà exprimée fin 2023, de voir des LGBT+ se faire exécuter dans un stade par lapidation. Voilà. En Floride, la loi Dansaigay voit ses effets très largement réduits. On peut de nouveau parler des LGBT+ dans les écoles. Les livres évoquant simplement les LGBT ne sont plus interdits dans les bibliothèques scolaires s'il ne s'agit que d'évocation. Et on peut également lutter contre le harcèlement LGBT-phobe dans le milieu scolaire. Cette victoire a été obtenue à l'issue d'un accord conclu lundi entre les responsables de l'éducation de Floride et les militants des droits civiques qui avaient contesté la loi Dansaigay. Une centaine de centres de thérapie de conversion ont ouvert en Chine pour essayer de rendre les LGBT+ hétéros et cisgenres. Les détenus sont battus, parfois violés. Celles qui arrivent à fuir sont capturés et ramenés par la police. La situation qui s'empire était déjà dénoncée dans le rapport Human Rights Watch de 2017 ou dans une enquête Reuters de 2021. Et on rentre en Belgique, où les personnes détenues au centre formé 127 bis nous apprennent qu'un homme âgé d'une trentaine d'années, Monsieur A, s'est donné la mort ce samedi 9 mars 2024. Il s'agit d'un homme d'origine éthiopienne, en Belgique depuis 12 ans. Il est enfermé depuis une dizaine de jours au centre. D'après ses co-détenus, il désirait rentrer dans son pays d'origine et se serait rendu à la police afin de demander un retour volontaire vers l'Éthiopie. Il aurait été arrêté au commissariat suite à sa demande et enfermé au 127 bis. Il a été découvert par un co-détenu à 5h du matin dans les toilettes. La direction du centre a fait le tour des différentes ailes du bâtiment pour confirmer le décès par pendaison et pour demander au détenu de rester calme par respect pour l'homme décédé. Le détenu qui a découvert le corps aurait été transféré dans un autre centre contre son gré. Ses co-détenus décrivent A comme un homme joyeux et triste. En même temps, ils ajoutent que même si A ne semblait pas avoir exprimé l'idée suicidaire, son état mental était interpellant. Ses co-détenus confirment qu'il recevait beaucoup de médicaments dans le centre et qu'il ne semblait pas dans son état normal, tremblant en permanence. Les détenus nous alertent en exprimant leur méfiance envers le personnel du centre et le climat de répression et de violence quotidienne qui y règne. Ils demandent que l'affaire soit médiatisée et qu'une enquête soit ouverte. Et un mini agenda militant. Demain, rendez-vous à 14h, Gare du Nord, pour la manifestation nationale en solidarité avec la Palestine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Pas de bonnes nouvelles, je suis désolée les gars. Et voilà, on peut faire une pause musicale si vous voulez.
Oui.
Une découverte qui n'en est pas une pour Chronique Mutante. C'est... En fait, j'ai découvert une artiste, enfin un groupe qui s'appelle Pelada, un groupe canadien qui chante en espagnol. Et alors, tout à l'heure, en essayant de télécharger sur Soulseek une chanson d'ultra-moderne qu'on va écouter après, je suis tombée sur une énorme playlist téléchargeable qui s'appelle Chronique Mutante Radio Show, qui, je pense, est la playlist énorme de notre ami Clectic, qui l'a mis en ligne sur Soulseek. Et qu'est-ce que je vois à l'intérieur ? Pelada. Ça veut dire que déjà en 2016, alors que le groupe venait juste de sortir, Clectic nous passait déjà ce groupe que... Moi, je découvre 8 ans plus tard.
À vrai dire, j'ai déjà passé du Pelada.
Toi aussi, t'as passé du Pelada ? Ok. Mais t'étais allé les voir en concert ? Parce que j'ai digué un peu et j'ai vu qu'elles étaient passées au Chaff en 2016.
Non, j'ai pas été voir en concert.
Mais j'aimerais bien les voir. J'espère qu'il y aura une tournée européenne cette année. Là, c'est un duo, je pense, du dernier album. C'est La Rente, c'est Levanta. Et c'est un duo avec Backwash, qu'on a déjà passé, qui est une rappeuse trans-états-unienne. Voilà. Que j'aime beaucoup. Voilà. À toutes.
And hope the feeling, listen to the old decisions. Pop the rings that show the glistens. Golden misses, molded pinkies. I've been reading what the Thomas teaches. Hold the pistol straight up to Jehovah's Witness. Soldiers in with more conscriptions. Foreign people blown extensions. Fuck the heroes, score the zeros. Love is evil, drop the ego. This very little life we live is like the rich. I'm going to an ISIS prince. Silence, below minus 10. High revenge, gonna waste black to win. And it's striking like bright in them. Do the same shit over and we back again.
L'ordre se complète dans l'hétéronormalité.
Le désordre se complote partout ailleurs.
Salut, je vais vous parler du livre du coup, que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors en fait, je vais parler du livre, mais aussi que j'ai lu. En fait, j'ai été assez frappée, je l'ai pris un peu au hasard. Ça s'appelle Ida ou le délire de Hélène Bessette, chez Point Signature en poche. Et juste, j'aimais bien le titre, en fait, tout simplement. Et je l'ai pris un peu au pif, comme ça. Et puis, en lisant, j'ai corné des pages en me disant « Ah, ça, je pourrais le lire à la radio. » Enfin, voilà, à chaque fois. Et puis, je cornais toutes les pages, en fait, en me disant que c'était vraiment super à écouter, à lire, enfin, même à lire à voix haute. Et je me suis un peu renseignée sur l'autrice Hélène Bessette, voilà, dont j'avais absolument jamais entendu parler. Et je me suis rendu compte que c'était quand même un personnage intéressant et que du fait qu'elle ait aussi été complètement... enfin voilà, qu'elle soit morte complètement dans l'oubli, je me suis dit bah, ce serait chouette d'en parler. Voilà, je ne sais pas si elle est spécialement queer, ce n'est pas précisé, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est son livre, là en l'occurrence, a vraiment un prisme féministe et vraiment très politique aussi tout le temps. Et sa vie aussi, finalement, est assez originale, surtout vu l'époque qu'elle a traversée. Donc je voulais juste parler un peu d'elle, finalement, et puis lire un passage, puisque voilà, j'ai corné toutes les pages de ce livre, il va falloir que je choisisse. Donc voilà, c'est donc, cette femme que je ne connaissais pas, est née le 31 août 1918. C'est une romancière et dramaturge française. Voilà. Elle était fille d'une parfumeuse et d'un chauffeur de taxi qui était divorcée, divorcée quand elle était petite, ce qui n'était pas très courant à l'époque déjà. Elle est devenue institutrice et elle s'est mariée avec un pasteur. Elle est partie vivre en Nouvelle-Calédonie avec lui. Ils ont divorcé aussi et elle est revenue toute seule en France avec un enfant. Et elle vivait dans une toute petite chambre. Voilà, donc... Et ensuite, elle a été seule quasiment toute sa vie. Et elle a écrit 13 romans quand même. Elle a eu un succès d'estime dans le milieu littéraire, donc, qui à cette époque-là comptait quand même quelques personnes importantes, Cocteau, Duras, etc. Mais elle vendait vraiment rien, quoi. Enfin, tellement qu'à la fin de sa vie, les éditeurs ne voulaient plus de ses bouquins parce que personne ne les achetait. Et elle écrivait, c'est vraiment la précurseuse, en fait, du roman dit poétique, avec une forme poétique. Ce que maintenant on voit quand même, il y a énormément de personnes qui ont ce type de pratique en littérature. Et ça, c'est une des premières qui a fait ça, en tout cas. Et donc c'est intéressant aussi, c'est une pionnière, en fait. Et donc elle écrivait, sa littérature est considérée comme âpre, pas facile. Moi, je n'ai pas trouvé du tout en le lisant, mais bon, vous me direz ce que vous en pensez avec le petit passage que je lirai. Voilà, elle a aussi eu un livre qui a été interdit parce qu'il était jugé, enfin, elle a même été jugée en procès pour atteinte aux bonnes mœurs. Un livre qui parlait l'éveil sexuel de deux sœurs, enfin, dans leur vie personnelle, et en fait, c'est passé vraiment très très mal. Dans une famille, voilà, deux sœurs d'une famille bourgeoise, et on raconte un peu leurs aventures. Donc, c'est. Du coup, je me suis dit déjà, quelqu'un, une femme qui a un livre qui est interdit pour atteinte aux bonnes mœurs, je me suis dit, elle a l'air sympa. Enfin, elle me plaisait bien, quoi. Et elle a écrit plusieurs bouquins comme ça. Et elle gagnait évidemment aucun argent puisqu'elle a démissionné de l'Éducation nationale, qu'elle critique d'ailleurs de manière assez acerbe dans un de ses textes, apparemment. Donc, elle a été très précaire toute sa vie. Elle a été gouvernante, concierge, femme de ménage, ouvrière. Et elle n'a jamais cessé d'écrire. Elle a fini par vivoter avec une petite aide de l'État qu'un de ses amis avait réussi à demander auprès d'elle, auprès du ministre de la Culture. Voilà. Mais sinon, elle a toujours parlé aussi de sujets qui n'étaient pas très à la mode pendant les Trente Glorieuses, où c'était quand même une période de consommation assez massive. Elle critique énormément ça. Donc elle parle de tous ces sujets, critique la société de consommation, elle parle de sexualité, de violence familiale, de classe sociale et de violences qui sont liées justement aux différences de classe sociale, d'argent, de l'hypocrisie des relations, notamment des relations amoureuses. Donc elle avait vraiment pas bonne presse, hein, effectivement. Et le dernier livre qu'elle a écrit, c'est Ida ou le délire. Et ensuite, tous ses livres ont été refusés. Elle a fini par écrire une autobiographie et elle est morte complètement dans l'oubli en 2000. Et le dernier article qui est paru sur elle dans Le Monde dit qu'elle a été emportée par la folie. Donc elle ne voulait plus voir personne, elle était cloîtrée, mais depuis pas mal d'années déjà, elle vivait complètement seule comme ça. Donc voilà, c'est un personnage, on n'a pas beaucoup plus d'informations sur elle. Mais elle a quand même écrit 13 romans qui ne sont pas du tout tous publiés. J'espère qu'ils vont être publiés parce que je suis assez intéressée même par les sujets dont parlent tous ces textes. Et surtout, il y a une écriture, quoi. Donc, Ida ou le délire, celui que j'ai lu, qui est le dernier roman qu'elle a réussi à publier, c'est un texte avec une forme poétique, mais moi, je trouve assez aisé à lire, étonnamment, parce que c'est très oral. C'est hyper moderne, ça pourrait quasiment être du rap des fois, je trouve que c'est étonnant. Et elle nous parle de la mort de Ida, une femme, une bonne à tout faire dans une grande famille. Voilà, elle traverse la rue, elle est avec son employeuse.
Elle trouve du boulot.
Non, elle trouve pas du boulot, elle se fait écraser par un camion. Voilà, c'est...
c'est un camion de transport Macron.
Voilà, c'est ça. Et en fait, elle traverse et au moment où elle allait traverser, Madame Besson, son employeuse, était en train de se moquer un peu d'elle en lui disant « Vous regardez tout le temps vos pieds, vous levez jamais la tête, vous êtes tout le temps en train de regarder vos pieds. » Et là, elle traverse et elle se fait écraser. Et c'est tout une sorte de dialogue entre la narratrice omnipotente qui raconte l'histoire d'Ida et en même temps des personnes qu'on entend dialoguer, pas de proches, parce qu'elle n'avait pas de proches. Ida, c'était quelqu'un de très seul, visiblement. Et on entend parler son employeuse, ses amis, les commerçants, les personnes qui l'ont vue être percutée. Et tout le monde culpabilise un petit peu, finalement, parce que tout en essayant de se justifier, parce que Ida, probablement, elle a traversé sciemment. Tout le monde se dit, là, elle a levé la tête, elle a vu le camion, donc qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là, quoi. Et donc, tout tourne autour de ça, c'est un livre très court, et vraiment, il y a énormément d'ironie. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait de l'humour aussi, étonnamment.
De l'humour noir, du coup.
Comment ?
De l'humour noir, du coup.
Ah oui, oui. Mais en tout cas, c'est assez ironique et assez méchant sur les employeurs hein, de cette Ida. Et elle écrit un livre voilà, sur les personnes qu'on n'entend jamais d'habitude. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très émouvant, très beau. Et il y a un souffle un peu révolté dans le livre que j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit que ouais, elle aurait été super syndicaliste. Enfin voilà, elle avait vraiment... Ouais, ça se sent quand même de la colère et de la rage, quoi, à revendre. Et bon, on le sent quand même aussi dans sa biographie. Donc je me suis dit que c'était chouette d'en parler à la radio. Je vais lire un petit passage, si ça vous va.
Yes.
Méditation longue et douloureuse, blasée, rageuse, silencieuse, résignée sur un cas. Un cas particulier, la pauvre Ida et sa mort. Ida seule n'y aurait pas pensé. Elle n'aurait pas pensé seule à la distribution des biens et avoirs, aux semblants de propriété, aux richesses fallacieuses, aux fausses vérités, aux clartés trompeuses. Ida seule il n'y aurait pas eu question, pas d'aventure, aucune question posée. Pour un problème apparemment sans solution, la vie de Ida était sans problème, sans cahier de compte, sans registre et sans notaire. Toutes ses vies sans héritage, sans le moindre héritage, c'était la sienne, celle de ses semblables. Ida, sans majuscule. La petite Ida. Ida, minuscule au milieu de tant d'autres. Madame Besson a tort. C'est elle qui a posé le problème. Et s'il y a une révolutionnaire dans l'histoire, c'est bien Madame Besson. Madame Besson a formulé les révolutions à venir. Par le moyen d'une ou deux phrases, trois peut-être, on ne dira jamais trop la puissance d'une parole clairement énoncée. La magie verbale aide toujours, donc. Madame Besson a formulé. Ida, elle est de la famille. Il s'agit des heureux, des puissants, Besson et alliés. À propriété, à château, à voiture, à territoire, à relation, à dîner. Ils ne manqueront pas le dîner, fallut-il traverser l'Allemagne ou la France pour s'y rendre et s'y trouver à l'heure. Ida grandit, glorifiée, par l'employeur lui-même qui termine. Faites comme chez vous ici, vous êtes chez vous. Mot débonnaire, soudain teinté de sang, livide et blême, car ils sont faux. Il s'agit du faux problème ou de la fausse solution. Maintenant, la question est posée, si elle ne l'était pas. Ida, lucide, sait ce qu'elle fait lorsqu'elle entre chez les Besson. Non par le mariage, mais par la domesticité, par l'appartenance. Si l'on prend soin d'elle, au moins en parole, c'est en tant que propriété. Ce qui d'ailleurs est énorme et représente un bon vouloir sincère. Ida n'ignore pas sa haute position très objective, l'objet Ida. Elle n'ignore pas les Besson, que personne n'ignore au demeurant. Tout le monde sait tout des Besson. Aussi, ce petit livre ne sera pas consacré aux Besson dont on sait tout. Toute chose flatteuse, cela va sans dire. Mais ce petit livre sera consacré à la pauvre Ida, à ses pieds notamment. Car il est beaucoup plus intéressant de parler de ce que l'on ne sait pas que de parler de ce que l'on sait. L'ignorance lève mille rêves, mille brumes éthérées, mille brouillards opaques. Où tremblent des lueurs. L'ignorance lourde de vertus inconnues, méconnues, un monde de richesses en fusion, d'où s'évadent mille images fantomatiques et peut-être les seules vraies. Voilà.
Merci.
Merci. Je propose une petite pause musicale. On va écouter un truc un peu chelou. On va écouter un groupe qui s'appelle, alors je sais pas comment on prononce ça, c'est T-H-O-U-F-O-F-O. C'est ce truc anglais là, dur à dire. Ouais, tout. Et en fait, c'est une reprise de Nirvana, d'une chanson qui s'appelle Even in His Youth. Et alors, c'est tout un album de reprises de Nirvana, mais en version Doom. Ça marche hyper bien, c'est même mieux en fait. Voilà.
L'émission en rose et noir de Radio Panique. Et alors, est-ce que si vous souhaitez regarder des séries ces temps-ci, je peux vous conseiller éventuellement. Enfin, vous pourriez être intéressé par la saison 3 de Young Royals, dont on avait déjà parlé, mais voilà, c'est sorti. Et donc, je vais faire un petit retour sur un petit rappel général sur c'était quoi cette série. Donc, en fait, moi j'ai un peu un kink sur les séries scandinaves, et donc c'est une série suédoise. Quand ça parle des sexualités déviantes, et ben ça m'intéresse encore plus. Et là, du coup, c'est une série avec Omar Rudberg et Edvin Riding, qui sont deux, enfin, que cette série a élevé au rang de superstar suédoise par la suite, j'ai appris. Donc en gros, un petit rappel à la saison 1, ça commence par les affres d'un prince de la famille royale de Suède qui est un peu le punk de la famille, enfin, toute proportion gardée vu le statut du truc, mais du coup, c'est à la fois un don juan et un tougher. Et en fait, il se retrouve propulsé prince héritier au décès de son frère aîné, qui était le prince héritier à la base, et pour qui le prince Willem avait beaucoup d'admiration. Mais en même temps, pour le mettre au pas, du coup, en tant que prince héritier, il a envoyé dans une école... il était très libre auparavant, mais du coup, là, il est envoyé dans une école très stricte, un pensionnat à Ilerska. Et là... il y a son cousin qui est aussi issu de la famille royale, du coup, qui est une sorte de chef des élèves, comme ça, représentant des élèves. Et surtout, il y a Simon, un gars qui est là, qui est. Je ne sais plus s'il est complètement out au début de la série. Mais bref, les deux se rencontrent, ils se séduisent, ils se mettent à s'aimer. Hein.
Il est boursier aussi, l'élève qui rencontre.
Ah oui, c'est ça.
C'est ça le truc.
Oui, c'est ça. Il est boursier, donc il est issu de classe populaire à moyenne, on va dire. Et donc voilà, il n'a pas les mêmes privilèges que le prince Willem, évidemment, du coup. Et alors ça pose la question de... Enfin, du coup, ils sont tous les deux tiraillés entre leur place, du coup, leurs origines, donc leur place, donc... enfin, tous ces trucs. Est-ce qu'un prince a le droit d'aimer un autre homme qui plus est issu... enfin, non issu de l'aristocratie, en tout cas. Et donc, en fait, la saison 1, c'est plutôt donc la rencontre, le comment histoise, etc. Enfin, allez, la séduction. La saison 2, c'est plutôt mais qu'est-ce qu'on va faire de ça. Et la saison 3, eh ben, du coup, c'est la saison des décisions, en fait. La saison des décisions, des compromis, des choix quelque part définitifs qu'ils vont devoir faire. Pour moi, c'est vraiment le moment où les protagonistes vont devoir soit rester dans leur zone de confort initiale, soit en sortir, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau du prince Willem, donc toutes les conséquences au niveau de la famille royale. Pour Simon, c'est plutôt toutes les conséquences liées au harcèlement qu'il subit, parce qu'il subit beaucoup de harcèlement en tant que personne homosexuelle et... plus isolé en tout cas que le prince Willem dont la famille essaye en tout cas d'étouffer toutes les ce qu'elle estime être des folies, des trucs non protocolaires, quoi. Et voilà. Voilà. Si vous aimez ce genre d'histoire, un peu. Des histoires de princes et princesses modernisées, on va dire.
Drama cheesy, un peu comme
drama
ça.
Drama cheesy, c'est ça. Eh bien, sans doute que cette série vous plaira.
Ils sont super mignons, en plus.
Oui, c'est ça. Et alors, à savoir que la troisième saison est sortie, mais pas totalement, parce qu'il manque... Ils ont chopé ils ont séparé le cliffhanger final, qui n'est pas encore dévoilé. Mais ça ne saurait tarder, manifestement.
Ils n'ont pas sorti épisode par épisode, ils ont sorti beaucoup d'un coup, sauf le dernier.
Ouais, c'est ça.
Ah, ok, original.
Ouais, c'est ça.
Ok, on fait une petite pause musicale ?
Yep.
On va écouter Ultra Moderne avec la chanson Si je suis bien que si j'ai bu, je crois que c'est ça le titre, qu'on a déjà passé à Chronique Mutante. Ultra Moderne qui va passer la semaine prochaine à Bruxelles, enfin en concert, je suis super contente. Et c'est samedi 23, Recyclard avec Tunesy Toon et un autre truc.
Et Ultramoderne qui a une longue vie derrière eux, avant même Ultramoderne.
Tout à fait, avant c'était les Pogo Marteau.
C'est ça.
Avant c'était les Pogo Marteau, c'est des gens qui sont dans la musique depuis longtemps, qu'on connaît. Adrien, t'avais déjà organisé un concert pour LE à la RTT. Et LE avait organisé un concert pour mon groupe à Blois il y a très longtemps.
Moi c'était il y a 18 ans.
Toi, c'était il y a 18 ans ?
Mais attends, 18 ans, je me trompe. Non, c'était pas possible. 2006.
2006.
On est en 24.
2006, oui, t'avais 20 ans. Donc c'était il y a 20 ans, mon pote.
Damn.
Presque 20 ans.
Ouais.
Moi, j'avais 22 ans, 23 ans, je pense, avec ce groupe. C'était mon premier vrai groupe. Et donc, ouais, c'était il y a presque pareil, en fait. Hein. Voilà, on est des vieux à Chronique Mutante. Si vous n'avez pas compris qu'on était des boomers, ben en fait, on l'est. Et donc, voilà, Ultramoderne, si je suis bien, que si j'ai bu.
Chronique Mutante, une émission féministe pour décortiquer, analyser, problématiser les injonctions hétéronormatives.
Chronique Mutante !
L'émission arrive à sa fin.
Moi j'ai un autre livre hein, si vous voulez.
Ouais.
Si vous avez envie.
Je sais pas.
Bah,
qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi je suis chaud. Hein.
Ouais, si tu veux. Ouais.
C'est vraiment pas mal. Hein.
Okay,
j'ai hésité hein, pendant vachement longtemps parce que j'en avais trois dans mon sac comme je disais. Je ne l'ai pas terminé, c'est pour ça qu'au début je me disais je ne vais pas parler d'un livre que je n'ai pas fini, mais en fait, pourquoi pas. C'est vraiment bien, au moins je ne vais pas spoiler, je ne risque pas. c'est un livre que j'avais envie de lire depuis longtemps, puis je l'ai trouvé dans mes affaires et je ne savais plus que je l'avais. Et l'auteur s'appelle Kevin Chen. Et c'est un auteur originaire de Taïwan qui vit maintenant à Berlin. Et qui a écrit pas mal de romans maintenant. Et celui-ci a eu avait eu une très bonne presse, en tout cas, je me souviens. Et ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Chen Tianhong et qui est un petit peu, voilà, on imagine, puisque l'histoire se passe à Yongjin, dans un petit comté à Taïwan, là d'où vient l'auteur Kevin Chen, que probablement il y a énormément de choses qui sont liées à sa propre vie. Mais en tout cas, l'histoire se passe dans un endroit que l'auteur a bien connu, puisque c'est là qu'il est né. Et c'est un livre qui parle vraiment de l'enfance, des liens qu'on peut avoir dans des familles dysfonctionnelles, pleines de violence et de non-dits, dans une campagne taïwanaise un peu à l'abandon, parce que c'est vraiment la zone de Taïwan qui est la moins, enfin la plus isolée en fait, en réalité. Et on suit du coup le Benjamin d'une fratrie de 7 enfants, donc Chen Tianhong, qui a quitté son village natal de Yongjin pour vivre son homosexualité et qui est parti pour ça vivre à Berlin, où il a eu une relation avec un autre homme qui s'est avéré être une personne violente et très toxique, qui a fini par conduire le narrateur et le héros en prison pour plusieurs années. À sa sortie, il retourne dans son village natal et essaie de d'élucider un peu un mystère qui plane sur son enfance. Donc il y a un côté un peu enquête comme ça dans le livre aussi. Et le livre fait parler en fait toutes les personnes de sa famille, même les morts, qui racontent en fait leur point de vue, leur expérience. Et tout ça se passe le jour des fantômes, enfin le jour de la fête des fantômes, qui est très importante apparemment à Taïwan. Et franchement, c'est assez impressionnant comme texte. C'est très beau, c'est très bien écrit. Après, je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais moi, je lis pas des trucs hyper fun, donc c'est pas du tout hyper fun. C'est plutôt même assez badant. Et ça parle aussi de l'enfance, donc de Chen Tianhong et de ses premières relations amoureuses complètement, évidemment, interdites dans ce village, et à Taïwan. En tout cas, ça passait pas du tout. Donc il raconte ses premiers émois et en même temps, on entend parler toutes ses sœurs puisqu'il a 5 sœurs, dont une qui est morte mais qui continue quand même à parler et on suit leur vie. Et c'est vraiment un livre qui est éminemment politique, très queer, qui parle aussi beaucoup de violences sexistes et sexuelles. Donc c'est assez intense. Et ça parle aussi d'une relation violente et toxique entre deux hommes. Donc c'est... ceci pas des choses dont on parle forcément parce que bon, enfin voilà. En tout cas, c'est un livre qui est très intéressant, qui est très bien écrit et qui est hyper sensuel, enfin dans l'écriture, dans le sens que ça ferait vraiment appel aux 5 sens. Un peu, on le lit. Il parle de la nourriture, il parle des odeurs, de la chaleur, de toutes ces sensations et puis de tous ces non-dits. Et franchement, on le ressent vraiment dans sa chair. C'est extrêmement bien écrit. Après, voilà, comme je disais, c'est pas feel good, quoi, clairement.
Et ça, l'histoire se situe à quelle période ?
Bah, en fait, là, il revient, ça se passe à peu près, ça se passe maintenant. Hein.
Ah oui.
Mais on retourne dans le passé, mais plusieurs générations en arrière, donc on apprend aussi beaucoup sur l'histoire de Taïwan. Moi, je connaissais pas du tout, hein, et qui a subi différents jougs. Du coup, on voit un petit peu aussi le mélange culturel qui peut y avoir là-bas. Et ça parle un peu de ces zones abandonnées qui deviennent plus ou moins industrialisées au bout d'un moment et qui se retrouvent à nouveau à l'abandon après. Donc c'est vraiment sur une zone, oui, abandonnée. Et ça s'appelle pas pour rien Ghost Town. Et c'est vraiment très bien. Voilà, je vous le conseille.
Merci.
Merci.
Avec plaisir.
On va écouter Tune the Tune qui passe aussi du coup avec Ultramoderne la semaine prochaine. Il nous vient de Metz.
Chronique Mutante, une émission
Rally cool.
Cette fois, c'est vraiment la fin, non?
Oui, voilà, c'est bon.
Ouais.
La fin des haricots.
Ouais, si vous savez pas quoi faire ce soir, vous pouvez aller à Nastmonique pour voir, non pas la Baraka King, mais Margot, tu as le nom de ce collectif de Paris qui...
Non,
Adrien?
Je n'ai pas suivi, en fait. Moi, je ne vais pas y aller, malheureusement.
Alors, en fait, c'est la Baraka King
qui
invite un collectif de drag king de Paris. Bon, voilà, je ne vais pas retrouver le nom là tout de suite, voilà, mais on s'en fiche. Je pense que c'est dans pas longtemps. Et c'est à prix libre, comme d'habitude, arrive à l'heure parce qu'il y a toujours plein de monde pour la Baraka King. Et voilà pour ce soir. Pour demain, je rappelle, à 14h, Gare du Nord, manifestation nationale en soutien à la Palestine. Et voilà, d'autres trucs cette semaine?
Oh, moi, je serais pas là, j'ai pas du tout suivi.
C'était la King's Factory ce soir.
C'est quoi? Ah oui, ok.
Les invités de Baraka King, c'est la King's Factory.
King's Factory, ok.
Et si on est dans les agendas, le 30 du 3, si vous voulez déjà noter ça dans votre agenda, à Nastmonique, il y a un karaoké.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Tout à fait. Mais le 30 du 3 est une soirée incroyable puisqu'il y a Daily Girls qui passe à Botanique. Et en même temps, il y a Officine qui passe aux Ateliers Closs, qui est un super groupe de noise de Paris. Donc je suis mais dégoûtée parce que je ne vais pas voir Officine que j'attendais de voir depuis longtemps.
Et pourquoi tu ne vas pas voir Officine?
Parce que je vais voir Daily Girls.
Ok.
Que j'attendais de voir depuis super longtemps aussi. C'est comme ça.
Dure
vie. Ouais, dure vie de Bruxelles où il se passe trop de choses en fait. C'est trop dur notre vie. On se lâche avec une petite pub pour notre sponsor historique et puis on se retrouve... je pense dans 2 semaines, plutôt en direct de la web Radio Rajaz.
Yeah.
Bisous. Chronique Mutante, une émission soutenue par la Fédération Schlagonie Bruxelles.